La tribu 106.9 à Saint-Nazaire.
La tribu, c'est Parole de Conti jusqu'à 16h. Je vais laisser la parole à Ethan, Théo et Nathan et leur invité, Madame Bain.
Nous accueillons Madame Bain de l'enseignante référente.
Bonjour Madame Bain, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ?
Je suis Anne Bain, donc je suis enseignante référente. Je suis à la base professeure des écoles et je suis chargée de la scolarisation des élèves en situation de handicap de 3 jusqu'à 20 ans. Sur le secteur, moi je travaille sur le secteur de Saint-Nazaire, La Baule et Pornichet.
Qu'est-ce que ça veut dire MDPH ?
Alors la MDPH, c'est la maison départementale des personnes handicapées. Elle gère donc toutes les personnes qui sont en situation de handicap, pour des enfants ou des adultes, et elle donne droit à des compensations pour donc toutes ces personnes. C'est des compensations, ça peut être matérielles, financières, de l'aide dans la scolarité, des services de soins ou les orientations aussi pour des élèves. Alors la MDPH, ça peut servir, donc ce que je disais juste sur la question d'avant, du coup j'ai peut-être un peu trop développé celle d'avant. Quand une personne est en situation de handicap, elle peut faire appel à la MDPH, monter un dossier, et on a une compensation. Donc par exemple, un élève qui a besoin d'aller dans une classe spécialisée, il peut monter, les parents montent un dossier à la MDPH qui donne droit à cette compensation d'orientation. Ça peut être aussi une compensation financière pour justement compenser le handicap du jeune ou quand il n'est pas du tout autonome pour financer aussi tout ce qui est garde. Voilà. Donc c'est tout ce qui va être étudié, c'est les compensations adaptées au handicap de chacun.
Depuis combien de temps existe la MDPH ?
Alors la MDPH, c'est assez récent finalement puisque ça a été créé suite à la loi de 2005 sur... le droit à la scolarité de tout enfant en situation de handicap. Donc c'est à peu près, je pense, moi, ça date de 2005.
Quels sont les critères ?
Les critères pour faire un dossier... En fait, toute personne peut faire un dossier à la MDPH. Tout le monde peut... Et après, c'est étudié en équipe. Donc la MDPH va prendre les différents bilans, des spécialistes... pour savoir si la personne, elle entre vraiment dans le champ du handicap ou si c'est, par exemple, juste de la difficulté. Il y a des enfants qui peuvent être en difficulté à l'école, mais qui ne sont pas forcément en situation de handicap. Donc il y a des équipes qui se réunissent très régulièrement, toutes les semaines, pour faire la distinction sur est-ce que c'est du champ du handicap, est-ce que du coup la difficulté, elle est durable dans le temps. C'est-à-dire qu'un enfant qui se casse une jambe au ski, il va être handicapé, mais sur un temps court. Sa jambe va être réparée au bout d'un moment. Donc il n'est pas dans le champ du handicap. Par contre, un enfant qui ne peut pas marcher, ce handicap, il est durable. Et là, il rentre dans le champ du handicap. Donc c'est étudié en équipe, avec une équipe pluridisciplinaire, avec un médecin, des psychologues, un enseignant. Et du coup, il voit si le jeune ou l'adulte est dans ce champ-là, du handicap. Donc quelque chose qui est durable dans le temps.
Qui peut demander à faire un dossier ?
Alors, toute personne peut demander un dossier. Quand les enfants sont mineurs, c'est un représentant légal qui monte le dossier à la MDPH. Moi, je m'occupe vraiment sur l'âge de scolarité, de 2 jusqu'à 20 ans. Mais après, la MDPH répond aussi à toute demande pour les adultes.
Pouvez-vous nous dire quelles sont les étapes à faire auprès de qui ?
Alors, si on reste vraiment sur ma fonction pour les jeunes, c'est par étapes. Soit la famille fait directement une demande à la MDPH. Donc la MDPH, elle est située à Orvault, près de Nantes. Donc elle peut contacter directement la MDPH pour avoir un dossier et puis faire ce dossier-là. Après, il y a une antenne sur Saint-Nazaire. Donc on peut aussi contacter l'antenne de Saint-Nazaire. Ou moi, les familles me contactent aussi. Mon bureau, il est donc au collège Anita Conti. Me contactent directement au collège et je peux les aider, moi, à formaliser ce dossier de demande de compensation.
Quelles sont les aides possibles ?
Alors, les aides possibles, j'ai un petit peu détaillé tout à l'heure. Donc, par exemple, un enfant qui est en situation de handicap, qui a besoin d'un ordinateur, on peut lui fournir des logiciels, un ordinateur, une tablette. Ou alors, s'il a besoin d'une auxiliaire de vie scolaire, ça peut être aussi à disposition. Des services de soins, des orientations en établissement, en classe spécialisée, tout ce qui est service de soins, et puis il y a les compensations, les aides financières.
On entend beaucoup parler du traitement des dossiers qui sont longs. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
Parce qu'il y a de plus en plus de demandes aussi sur le département, donc il y a énormément de dossiers à traiter par la MDPH. Depuis janvier 2018, en plus, il y a une grande avancée au niveau de la MDPH, c'est qu'ils ont numérisé tous les dossiers. Avant, les dossiers restaient des dossiers papier. Et depuis janvier, tous les documents sont numérisés, donc ce qui demande aussi des délais pour traiter tous ces dossiers, de plus en plus de demandes. Donc forcément, les délais après se rallongent sur le traitement des dossiers qui peut être parfois long pour les familles, puisque à partir du moment où ils font une demande, c'est que pour eux, il y a un besoin. Et parfois, voilà, la réponse arrive un petit peu trop tard pour eux. Mais on essaye de faire au mieux.
Quel âge ont en moyenne les personnes que vous suivez ?
Alors moi, je suis de la préscolarisation, c'est-à-dire que je commence à faire le suivi des jeunes qui sont en toute petite section, donc qui peuvent avoir 2 ans. Et je les suis jusqu'à la fin de leur scolarité, donc je suis également jusqu'au BTS. Donc moi, c'est vraiment, on va dire, de 2 à 20 ans.
Il y a une ULIS au collège. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est ?
Alors, une ULIS, c'est une unité localisée d'inclusion scolaire. Les ULIS, il y en a dans les écoles élémentaires, il y en a au collège. Et ce sont des unités, des dispositifs pour l'accueil de jeunes en situation de handicap qui ont besoin de compensations plus spécifiques. Donc les ULIS, il y en a pour, par exemple, des troubles moteurs, comme sur Anita Conti avec la dyspraxie. Il y en a aussi sur les troubles du langage, sur les troubles visuels, sur les troubles cognitifs, des fonctions cognitives et les troubles du comportement. Donc on a tout type de dispositifs dans les différentes écoles ou collèges. Et ce sont des dispositifs qui sont limités normalement à 12 jeunes qui sont inclus dans le collège sur leur classe d'âge et qui bénéficient d'aides un petit peu plus ponctuelles ou de compensation, des adaptations pédagogiques ou de soutien sur des domaines où ils sont un peu plus en difficulté.
Qui décide de la mise en place d'une ULIS dans un collège ?
Alors, les mises en place, en fait, ça, c'est pas trop mon domaine, je gère pas trop ça, mais généralement, on voit les besoins. Par exemple, sur Saint-Nazaire, il n'y avait qu'une ULIS pour les troubles du langage, et on voyait qu'il y avait énormément de demandes, et donc pas assez de place pour accueillir tous ces jeunes. Donc, nous, en tant qu'enseignants référents, on peut faire remonter qu'il y a des réels besoins, et les inspecteurs de l'éducation nationale font après des demandes auprès des directeurs académiques, donc directeurs académiques des services de l'éducation nationale. Et après, c'est le département qui peut après ouvrir ces dispositifs sur les collèges ou les mairies, par exemple, sur les écoles élémentaires.
Quels sont les liens entre la MDPH et l'ULIS ?
Alors, la MDPH, elle donne le droit. C'est-à-dire que quand il y a une famille qui fait une demande, la MDPH va accorder une orientation sur ce dispositif-là. Et après, c'est l'inspection, la direction départementale des services de l'éducation nationale qui va affecter les jeunes sur ces ULIS-là. Donc la MDPH donne juste une notification comme quoi le jeune peut y avoir accès. Et en fonction des places disponibles, c'est l'inspection qui affecte les jeunes.
Au collège, on entend parler d'ULIS. Et de l'inclusion. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est ?
Alors, par rapport à ULIS inclusion, c'est parce que les jeunes qui sont en ULIS, ils ne sont pas, on va dire, sur la classe ULIS. L'inclusion, c'est ça, en fait. C'est qu'ils sont sur un dispositif. Mais un jeune qui est en ULIS, il va être élève de 6e, de 5e, de 4e ou de 3e. Et l'inclusion, c'est parce qu'il va pouvoir être parmi les autres de sa classe. Et ce dispositif lui permet juste d'avoir des compensations, des adaptations sur ce dispositif qu'il peut venir très ponctuellement. Il y a des jeunes qui peuvent y aller que pour une matière ou pour faire du soutien ou pour avoir les adaptations nécessaires. Mais ils sont en inclusion sur leur classe de collège.
Comment trouvez-vous cela ?
Mais moi, je trouve que c'est bien parce qu'à l'origine, les ULIS ne s'appelaient pas ULIS, ça s'appelait les CLIS pour l'école élémentaire. Et c'était des classes... Le début, c'était le mot « classe ». Donc, les jeunes, ils faisaient partie de la classe spécialisée. Et ils allaient, à l'inverse, ponctuellement, faire des choses dans les autres classes. Alors que l'ULIS, aujourd'hui, l'élève est partie intégrante de sa classe de collège, par exemple, ou d'élémentaire. Et je trouve que, du coup, l'inclusion est beaucoup plus porteuse que juste une intégration ponctuelle dans une autre classe.
Parlons de vous maintenant.
Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir sur nous ? Sur moi ?
Quel est l'intitulé de votre métier ?
Alors moi, mon métier, à la base, donc, je suis professeure des écoles, mais ma fonction exacte, c'est enseignante référente pour la scolarisation des jeunes en situation de handicap.
Quelle formation faut-il faire pour faire ce métier ?
Alors, il y a deux accès possibles pour faire ce métier. C'est soit être professeur des écoles, donc comme moi. Moi, j'ai fait le concours pour être professeur des écoles. Et il y a aussi, dans ce métier-là, des gens qui passent par le diplôme pour être professeur dans le second degré. Donc, soit on est enseignant du premier degré, soit on est enseignant du second degré. Ensuite, il faut qu'on soit spécialisé. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait passé un examen, un diplôme supplémentaire pour être spécialisé dans le handicap.
Pourquoi êtes-vous présente au collège ?
Alors, les enseignants référents, à la base, à la création même de la MDPH, ils étaient hors collège. Ils travaillaient soit dans des bureaux de l'inspection. Et du coup, maintenant, nous, on est rattachés à chaque fois à un collège. Et mon bureau, moi, il est basé sur le collège Anita Conti, puisque comme c'est un nouveau collège, chaque nouveau collège a une petite salle qui peut accueillir un enseignant référent. Et moi, c'est un peu au cœur de mon secteur, puisque moi, j'interviens sur Saint-Nazaire, Labo-les-Pornichets, ce qui m'a permis de pouvoir sillonner après dans mes établissements et mes écoles.
Que faites-vous dans une journée ?
Alors, ce que je fais dans une journée, c'est... j'ai envie de dire que je n'ai pas une journée de type, parce que dans notre métier, en fait, on bouge beaucoup, on fait beaucoup de choses, donc ça se lit sur une année complète. Parce que ma journée d'aujourd'hui va être complètement différente. D'ailleurs, cette journée-là est assez exceptionnelle parce que répondre à une interview radio, c'est pas trop dans nos missions, donc c'est assez rare. Mais par contre, ma journée est totalement différente d'une journée sur l'autre. Donc généralement, dans mes missions sur une année complète, donc moi, j'anime des équipes de suivi de scolarité pour chaque jeune que je suis. Donc, sur mon secteur, je suis plus de 200 jeunes. Donc, je vais dans les écoles. Je réunis, donc, il y a les directeurs, les parents, les enseignants, les personnes qui peuvent suivre le jeune aussi en rééducation, qui sont présentes. Et on est là, on discute sur la scolarité de chaque enfant, sur ses besoins. On évalue si ce qui est mis en place est suffisant, s'il faut prévoir autre chose. Donc, j'ai une de ces missions-là qui me prend quand même beaucoup de temps, puisque ça veut dire que ça fait à peu près 200 équipes de suivi de scolarisation. J'ai aussi tous les comptes rendus de ces réunions-là après à faire et à envoyer à tous les partenaires. Je suis aussi présente sur les équipes pluridisciplinaires de la MDPH quand on étudie les demandes justement de tous ces enfants de tout le département 44 pour évaluer un petit peu entre la demande et puis les bilans. J'interviens aussi auprès des familles, je les aide à compléter les dossiers MDPH. Je suis en lien avec les services de soins pour faire le suivi des jeunes. Donc, mes journées sont très très diverses et j'ai pas deux journées qui se ressemblent.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Alors moi, du coup, à la base, c'est vrai que j'étais enseignante moi-même en CLIS et puis en institut. J'étais spécialisée et puis j'ai eu envie de voir un autre versant, faire autre chose. Et j'ai découvert ça puisque moi-même, j'étais enseignante et j'avais une enseignante référente qui venait pour faire le suivi de tous les jeunes que je pouvais avoir en CLIS. Et puis, je me suis dit, ça pouvait être intéressant pour voir un autre versant aussi du handicap. Et puis, j'ai voulu essayer une année. Et puis maintenant, ça va faire 8 ans que je fais ça.
À propos du handicap, est-ce que vous trouvez que ça s'améliore en France au niveau mentalité ? Comment ?
Alors, c'est difficile. Moi, je ne pourrais répondre que par rapport à mon regard à moi, parce que je ne peux pas répondre sur quelque chose de global en France. En tout cas, de mon regard à moi, je trouve que les choses évoluent justement avec le plus en plus de jeunes qui sont inclus dans tous les établissements scolaires, ce qui permet de faire changer le regard des autres. Et plus on est habitué justement à la différence, à la difficulté et au handicap, et plus le regard des jeunes peut changer. C'est souvent, enfin moi je voyais, pour vous donner une petite illustration, quand j'étais en CLIS, les premiers jours dans l'école de jeunes qui arrivaient, qui ne connaissaient pas du tout les élèves qui pouvaient être handicapés, me disaient « Oh, il est où l'handicapé ? Je ne le vois pas. » Et au bout de quelques semaines, ils me demandaient « Mais elle est où Anaïs ? Il est où je ne sais pas, Axel, parce que c'était devenu des copains et il est nommé par les prénoms et le handicap était devenu quelque chose de secondaire. Et je trouve que c'était une belle illustration quand même de le changement de mentalité.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses ?
Alors, c'est une question vaste. Je ne pense pas que je puisse moi-même y répondre. Je ne saurais pas trop quoi dire, mais je pense qu'on continue en tout cas l'inclusion des jeunes en faisant ce qui est fait aujourd'hui. Par exemple, vous, de passer aujourd'hui sur la radio. Je trouve que c'est des animations qui sont vraiment très enrichissantes pour tous. Pour me contacter, il y a du coup moi en tant qu'enseignante référente, tous les directeurs des écoles ont mes coordonnées. Donc c'est les directeurs qui peuvent directement me contacter sur j'ai un téléphone, une adresse mail professionnelle, ou les familles peuvent me rencontrer sur le collège Anita Conti. Mais si c'est sur la MDPH, les familles peuvent tout à fait appeler l'accueil de la MDPH de Saint-Nazaire ou d'Orvault, qui pourra répondre à toutes les questions et faire l'envoi des dossiers si nécessaire.
Merci à Mme Bain d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous de m'avoir invitée.
Merci à vous, messieurs, et merci encore, Mme Bain, d'avoir accepté notre invitation. On change complètement de registre juste après la pause musicale, puisque nous allons parler de cuisine et pâtisserie.